ta main. C'est l'appel que je vous propose de laisser résonner aujourd'hui dans nos cœurs. Nos cœurs qui sont souvent un peu comme des arbres secs, comme des terres craquelées, mais où nous pouvons aussi écouter cet homme, Jésus, qui nous invite toujours à passer avec lui de la mort à la vie. Alors vous l'avez sans doute deviné, le texte que je vous propose pour aujourd'hui, c'est le récit de la guérison de l'homme à la main sèche. C'est un texte qui appartient à ce qu'on appelle la triple tradition. Ça veut dire qu'on le retrouve dans les trois évangiles dits synoptiques, chez Marc, chez Matthieu et chez Luc. Et on va le lire ensemble dans l'évangile de Marc. Donc ça se trouve au chapitre 3, versets 1 à 6. Et on va vraiment bien prendre le temps de s'imprégner du texte, de pénétrer dans l'expérience du texte verset par verset. Mais avant cela, et je vois qu'ils sont prêts là, les jeunes nous proposent d'interpréter le passage dans son ensemble. Donc je leur laisse la place un petit moment. Alors... On est au tout début de l'évangile de Marc, le premier évangile, qui est le plus bref et un peu le plus radical aussi. Dès les tout premiers versets, Jésus a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, un Dieu qui vient nous sauver au cœur de nos vies. Très vite, dans un premier temps, il va rester surtout dans son environnement proche, donc parmi les Juifs de Galilée, et il y a eu très vite des guérisons, des vies restaurées, mais très vite aussi des controverses, parce que Jésus surprend et dérange. Et il y a quatre faits en particulier avant ce passage qui ont provoqué ces controverses. Il a pardonné les péchés d'un paralytique, il a mangé avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, il a laissé ses disciples manger alors que les autres jeûnaient, et il les a laissés cueillir des épis en jour de sabbat. Et ce passage est au fait la cinquième et la dernière de ces controverses qui ont lieu chez Jésus en Galilée. Et c'est justement encore sabbat, un jour de repos, comme chaque samedi, où on cesse tout travail et on se retrouve ensemble à la synagogue pour louer le Seigneur, pour prier et lire les Écritures. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Alors que fait Jésus le jour de sabbat? Il entre dans la synagogue, donc jusqu'ici rien de plus normal. Et Marc nous précise de nouveau, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Mais quelque chose aujourd'hui semble éveiller son attention, ou plutôt quelqu'un. Il y a là un homme à la main sèche. Je me suis demandé si les autres personnes l'avaient remarqué, cet homme, ou s'il faisait plutôt un peu partie du décor, un peu comme ces mendiants qui ont parfois une main aussi un peu difforme et qu'on ne regarde plus vraiment au coin de nos rues. Cet homme s'est rendu à la synagogue, donc apparemment il pratique le sabbat, mais est-ce que c'est vraiment un jour de repos pour lui ? Il y a peu, j'ai vu un reportage sur un jeune Ukrainien qui avait perdu son bras, blessé par un missile, et qui avait vu sa vie s'écrouler. On sentait vraiment sa détresse, mais en même temps, avec l'aide de sa famille et de ses amis et d'un psychologue, il reprenait peu à peu espoir en la vie. Mais la situation, en fait, d'un malade à l'époque de Jésus est différente, parce que les malades sont souvent considérés comme impurs, et donc mis à l'écart du corps social. Et il ne peut pas espérer, lui, cette tête des autres, cette main tendue des autres. Le sabbat, pour lui, n'est sans doute qu'une journée de plus à rester dans la marge, à regarder la vie des autres défiler et à subir la sienne. Mais il voit pourtant peut-être ici aussi le regard de Jésus, un regard qui réveille un espoir, une source oubliée. Et les autres personnes, ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Alors apparemment, Jésus et son regard pour l'homme ne sont pas du tout passés inaperçus, mais par contre, ce n'est pas du tout à cet homme qu'on s'intéresse. Il n'y a aucune main, aucune oreille, ni même aucun œil qui se tend vers lui. C'est Jésus qu'on observe, qu'on guette, qu'on épie. on ne bronche pas, on reste bien au repos, on respecte le sabbat. Mais par contre, les pensées fonctionnent à toute allure, et des pensées plutôt négatives. On pourrait dire qu'on ne dit rien, mais qu'on en pense pas moins. Et en fait, on attend Jésus au tournant, parce que s'il pratique une guérison ce jour de sabbat, et en plus à l'intérieur de la synagogue, ce sera une profanation qui signera son arrêt de mort. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Jésus a sans doute deviné leurs pensées. Jusqu'où va-t-il pousser la provoque ? Jusqu'à profaner le sabbat ? Alors qu'il n'y a vraiment aucune urgence à guérir cet homme, ça pourrait attendre le coucher du soleil, depuis le temps qu'il est dans cet état. Mais face à toutes ces pensées, Jésus propose un déplacement. En ce moment, devant lui, il voit un homme, un être dont la main, qui représente la puissance souvent dans la Bible, dont la main s'est desséchée, comme si en lui, la source de vie s'était tarie. Et la première parole de Jésus est pour lui, pour cet homme, pour le plus démuni. Une parole qui vient réveiller les racines. Lève-toi, là, au milieu. Ose te lever et venir au centre, même si tu crois être en bras cassé. Quitte la marge et réintègre le cercle des vivants. Voilà l'invitation de Jésus. Un appel qui nous responsabilise. Et c'est vraiment à cet appel qu'ont répondu les jeunes ce matin qui venaient au micro nous partager leurs expériences. C'est ce que font aussi ceux et celles qui se lèvent lors de nos cultes des témoignages. Mais venir au centre, c'est bien sûr aussi et avant tout tous ces petits actes d'amour discret, une main tendue, un sourire. Je repense à mon grand-père. Après le décès de ma grand-mère, qui était comme paralysée de chagrin, c'était vraiment comme si on lui avait arraché un bras. Jusqu'au jour où il a décidé d'apprendre à cuisiner les galettes qu'elle lui faisait et qu'il aimait beaucoup, et à les cuisiner pour nous. Et ce jour-là, on a su qu'il avait réintégré le cercle. Puis, il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ?» ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Mais ils gardèrent le silence. Alors une fois de plus, on a, c'est vraiment très visuel hein, chez Marc, la caméra de Marc qui passe de l'homme à la main sèche aux autres personnes qui sont présentes dans la synagogue et toujours muettes comme des tombes. Et qui sont-elles d'ailleurs ? On imagine souvent, et jusqu'ici j'imaginais que c'était, oui, c'est les pharisiens, parce qu'on en parle juste avant, c'est eux qui interpellent Jésus à propos des disciples qui cueillent des épis le jour de sabbat, et au dernier verset on va en parler aussi, mais au fait, dans le texte il est juste écrit « ils », et rien ne nous empêche d'inclure aussi d'autres personnes, et je me suis dit « pourquoi pas les disciples ?» Ce sont vraiment les grands absents dans ce passage, il n'en est pas du tout question. Et il est très probable qu'ils se trouvent eux aussi dans la synagogue ce jour-là et qu'ils ne comprennent plus vraiment ce que leur rabbi est en train de faire. Ce qui ne va pas un peu trop loin ? Est-ce que c'est absolument nécessaire de s'exposer ainsi un peu bêtement à une condamnation à mort ? Nous aussi, trop souvent, nous préférons le confort de cette masse anonyme, garder le silence, pour ne pas nous attirer de problèmes, rester bien assis à notre place, bien cachés derrière nos écrans, éviter de nous exposer. Je sais que souvent je choisis la mort et sa stabilité, plutôt que la vie qui sans cesse me bouscule. Et Jésus nous invite au contraire à nous laisser déplacer et à lui faire confiance. C'est pas seulement la vie de cet homme qu'il vient sauver, mais nos vies à tous, dans leur sécheresse et leur aridité. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Étends ta main ». Il l'étendit et sa main fut guéri. Marc nous montre ici en Jésus plein d'humanité. Comme nous, il éprouve des émotions entremêlées, l'indignation ou la colère, selon la plupart des traductions, et puis l'affliction, la tristesse, et le terme grec ici désigne un chagrin partagé. Ces émotions vives semblent couler de source en la personne de Jésus, et il y a vraiment un contraste avec la sécheresse de la main de cet homme. Mais qui est vraiment le plus desséché? Est-ce cet homme ou le public aux pensées négatives, au cœur endurci? Un peu plus tard dans son évangile, Marc nous racontera la guérison de deux aveugles et ce sera l'occasion pour Jésus de dénoncer l'aveuglement spirituel de son entourage. De même, la main sèche de cet homme n'est-elle pas la face visible de ce lieu caché de nos cœurs, souvent sec et dur? Dans la Bible, il y a souvent un lien entre le cœur, qui est avant tout le siège des pensées, des forces vitales et des choix décisifs, et la main, qui peut symboliser les actions. N'est-ce pas au cœur, à la source, que nos actions se tarissent? Et face à cet endurcissement de nos cœurs, Jésus dit « Étends ta main ». Étends ta main, c'est aussi exactement la parole que Dieu dit à Moïse au chapitre 7 et suivant de l'Exode face à l'endurcissement du cœur de Pharaon. Trop de coïncidences ici pour être en hasard. Et cette main tendue de Moïse est en fait le reflet de Dieu qui étend sa main pour sauver son peuple, le faire passer de l'esclavage à la liberté, un déplacement, encore une fois, une Pâque, c'est-à-dire un passage vers la vie, mais qui implique aussi de traverser la mort. Les pharisiens sortirent, et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Alors c'est sur ce verset très peu réjouissant que se termine notre passage. Jésus proposait quelques versets plus haut, sauver une personne ou la tuer. Il a choisi la vie, mais il semble que les leaders à la fois religieux et politiques locaux aient opté, eux, pour la mort. Et ce conseil pour trouver les moyens de faire périr Jésus n'est en fait sûrement pas la seule conséquence de cette guérison du jour de sabbat. D'ailleurs, quand on y réfléchit, paradoxalement, ici, Jésus n'a posé aucun acte. Il n'a même pas touché l'homme. Il n'a fait que parler, ce qui n'est pas du tout interdit le jour de sabbat. Et cette décision de le faire mourir est en fait l'aboutissement de ces cinq controverses qui ont eu lieu chez lui en Galilée. Celle-ci n'a été que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et le destin de Jésus semble maintenant scellé. Et les disciples, on n'en parle toujours pas. Je me dis que s'ils étaient dans la synagogue, ils ne savent peut-être pas vraiment sur quel pied danser. Bientôt, Jésus les emmènera hors de Galilée, hors de leur zone de confort. Et il leur annoncera aussi clairement sa mort prochaine. On est bien loin ici du « tout est bien qui finit bien ». Une main guérie, et pourtant tant de cœurs encore endurcis, tant de silences complices. De petites lueurs d'espoir, ça et là peut-être, mais partout encore la guerre, la crise, l'indifférence. Ça donne presque envie de baisser les bras. À quoi bon ? Étends ta main. Cette petite voix nous propose un autre chemin. Celui d'un homme qui ne nie ni la mort, ni la souffrance, et qui nous indique clairement que sa route et que la nôtre passeront aussi par là. Un pasteur en Espagne nous répétait souvent qu'il ne croyait pas en un évangile rose. Non, il n'y a pas d'évangile rose bonbon. Mais j'ose pourtant croire en un évangile vert. vert comme la pousse qui peut jaillir soudain de notre air craquelé, ou le bourgeonnement sur notre bois sec, comme cette voix de Jésus quand elle fait son chemin en nous. Un chemin qui ne s'arrête pas à la mort, mais qui toujours nous ouvre à une promesse de vie. Même si nous ne le voyons pas, même si nous ne pouvons pas le toucher, il y a cette voix que nous retrouvons dans sa parole et que nous entendons aussi parfois apaiser notre cœur, nous combler de joie, nous mettre au défi ou nous relever. Étends ta main. C'est le geste que fait Jésus lui-même dès le tout début de l'évangile de Marc pour guérir un lépreux. Étendre sa main, c'est ce qu'il ne cessera de faire tout au long de sa vie. Jésus, dans nos vies, on pourrait dire que c'est une main toujours tendue vers nous. Nous, les hommes au cœur dur et aux mains sèches, qui vivons souvent bien en dessous de nos espérances. Ces deux mains tendues de Jésus, cette vie offerte, malgré tout, ne sont jamais plus palpables qu'à la croix. Et je voudrais vous partager ici quelques mots d'une poétesse qui s'appelle Hilde Domin et qui font, je trouve, vraiment écho à ce texte de Marc. Moins que l'espérance en lui, voici l'homme manchot, toujours. Seul le crucifié a les deux bras largement ouverts, le « me voici ». À ces bras ouverts du crucifié, à cette petite voix qui nous appelle à tendre la main, malgré la mort, malgré la souffrance, l'homme manchot, l'homme à la main sèche que nous sommes, peut parfois aussi répondre. Juste un exemple, celui du chanteur Julius Bocarn, qui est décédé il y a peu. Au tout début de sa vie de couple, sa jeune femme s'est fait assassiner. Et face à cet événement absolument dramatique, il a choisi, malgré tout, d'avoir le cœur sur la main, et il a publié une lettre bouleversante dont je vous propose de lire un tout petit extrait avant de conclure. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Face à ce qui m'arrive, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Étends ta main. Aime à tort et à travers, car toi aussi tu peux reboiser l'âme humaine. Malgré la triste boutique qu'est ce monde, les vies desséchées et les cœurs endurcis. C'est ce que nous dit le ressuscité, lui qui nous sauve de nos aridités, qui nous appelle à nous lever à sa suite là, au milieu des bruits du monde, au cœur de nos peurs et nos fragilités, là où son esprit irrigue nos vies et où déjà l'espérance refleurit. Je vous invite à la prière qu'on fera suivre par un petit temps de silence. Et pour ceux qui le désirent, pour marquer dans notre corps aussi cette invitation de Jésus, on peut faire ce geste de tendre la main. Seigneur, Merci. Merci pour tes deux bras toujours offerts, pour ta main toujours tendue vers nous. Et pardon pour nos cœurs, si souvent secs et durs. Rends-nous chaque jour attentifs à ta voix, cette voix qui redit au cœur de chacun, étends ta main. Amen.
Merci Christelle pour ce moment de prédication. On va maintenant passer au moment des annonces. Il nous dit ce qu'il dit, donc il y a beaucoup d'événements qui vont avoir lieu prochainement. Et donc tout d'abord, dimanche prochain, le dimanche 30 avril, nous allons avoir un culte de témoignage. Comme tous les cinquièmes dimanches dans cette église, il n'y aura pas de prédication, mais ce sera uniquement des témoignages. Si vous avez la motivation et l'envie de nous raconter un témoignage ou quelque chose qui vous est arrivé, vous pouvez contacter Jean-Haut pour qu'il puisse préparer le programme des différentes personnes qui vont témoigner dimanche prochain. Et donc voilà, c'est toujours un moment édifiant d'entendre le témoignage de frères et sœurs en Christ. Donc ce sera dimanche prochain, le 30 avril. Ensuite, le samedi 6 mai, de 17h à 19h, il y aura une soirée de louange organisée par le groupe de louange. Donc ce sera en fin d'après-midi. Et ce sera l'occasion de louer le Seigneur tous ensemble. Donc ce sera ici. Prochaine date à retenir, ce sera le week-end du 27 au 29 mai, puisque nous aurons notre week-end d'église. Alors, ce ne sera pas à l'endroit de la photo, par contre. C'est une photo des gens. Ce sera à Combrignon, dans les Vosges. Donc ce sera un moment où on passera le week-end tous ensemble, avec des méditations, des cultes spéciaux, des jeux, des repas, des bons moments. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, il faut le faire avant le 13 mai, auprès de Jean-Haut. Donc voilà. Pour les prix, donc les tarifs, c'est 35€ pour les actifs et les retraités, 30€ pour les lycéens, étudiants et sans emploi, 20€ pour les jeunes de 6 à 15 ans, et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Sachant qu'il y a un maximum de 100€ par famille. Si vous avez des difficultés de paiement, vous pouvez toujours contacter Jean-Haut. Voilà, le prix ne doit pas être un frein. Ce sera sur le thème des phases de la vie spirituelle avec Anne et Louis Schweitzer. Et donc, je vais laisser la parole à Dominique.
Je vais pas micro. Donc, Louis Schweitzer, l'orateur, a écrit un livre sur ce thème, c'est les étapes de le chemin de la vie spirituelle. Pour ceux qui s'intéressent, donc, il sera disponible à ce livre, pas dans la tête là. Sur le prix de 15€ le livre, ça vous permet de connaître un peu l'orateur, de préparer des questions éventuellement, de préparer votre système d'équipe. Merci.
Merci Dominique. Je vais laisser la parole à Christelle de nouveau qui va nous parler du culte d'évangélisation.
Très court. Hein. Juste dire que le 21 mai, il y aura un culte spécial évangélisation et édification et qu'il y a des flyers sur la table d'entrée que nous a fait Guillaume. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, à inviter des amis aussi qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et le thème, ce sera trois bonnes